Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos experts au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons tout à l'heure du bras de fer entre les États-Unis et la Cour pénale internationale. Vous savez que les États-Unis ont été toujours hostiles à la CPI, ils ont toujours refusé d'y adhérer, mais en début de semaine, Washington a franchi un pas en multipliant les menaces contre l'institution judiciaire. Si jamais la Cour décidait de poursuivre des citoyens américains, nous sanctionnerons les juges, a prévenu John Bolton, le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Il faut dire que la procureure de la CPI n'exclut pas d'ouvrir une enquête pour déterminer si les forces américaines ont commis des crimes de guerre en Afghanistan. Vos réactions évidemment nous intéressent. Comprenez-vous ces menaces? Dites-nous si la pression américaine ne risque pas finalement d'affaiblir encore un peu plus la Cour pénale internationale. Là aussi, on vous attend. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions. Question sur la Mauritanie. Lamine, bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci de nous écouter en Gambie. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oh ben, selon la grande radio RFI, une ONG de défense des droits de l'homme, à savoir l'Human Rights Watch, dénonce les violences faites aux femmes en Mauritanie, tout en accusant le gouvernement de ne pas prendre des mesures adaptées. Mmh. À ce sujet, je voulais savoir quelle est la réaction de l'État mauritanien face à ces accusations? Et est-ce qu'il y avait déjà des mesures de protection des femmes en vigueur?
Alors, ce rapport a été rendu public il y a quelques jours et effectivement, l'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce notamment la double peine que doivent subir les femmes et les filles victimes de viols ou d'agressions sexuelles en Mauritanie, car aussi incroyable que cela puisse paraître, ces femmes qui ont eu le courage de porter plainte risque de se retrouver en prison. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour Juan, bonjour Lamine.
Merci d'être avec nous. Vous avez lu le rapport de Human Rights Watch. Les données rassemblées par l'ONG sont alarmantes. Les cas de viol se comptent par centaines en Mauritanie. Quelle a été la réaction du gouvernement mauritanien?
Alors, le gouvernement a mis un petit peu de temps pour répondre, mais il a finalement envoyé une réponse de 10 pages à l'ONG. Dans cette réponse, les autorités ne réfutent pas déjà le contenu du rapport, c'est le premier point qui est important. Elles répondent aux questions de Human Rights Watch en donnant des statistiques qui n'étaient jusque-là pas disponibles. Les autorités listent aussi les quelques mécanismes de protection de la femme qui existent, donc elles se défendent plutôt habilement, on va dire. Mais il s'agit quand même d'une réponse en demi-teinte, parce que si les autorités reconnaissent notamment que les violences sexuelles existent, elles lient cela à l'érosion des mœurs et des traditions mauritaniennes, mais pas du tout elles ne considèrent pas du tout que c'est un problème intrinsèque à la société, comme un peu dans tous les pays. Le problème aussi pour Human Rights Watch, c'est que dans cette réponse, les autorités ne font aucune promesse de changer les choses. Elles ne reconnaissent pas que des améliorations institutionnelles pourraient changer la donne. Elles ne répondent rien non plus à la problématique de l'adultère, du zina, comme on dit en arabe, qui fait que les filles violées sont parfois poursuivies ensuite devant la justice. Human Rights Watch demandait pourtant clairement à ce que ces pratiques cessent. Donc en résumé, les autorités ont pris la peine d'élaborer une réponse construite, mais qui ne laisse pas forcément entrevoir des améliorations de prise en charge.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a tout de même en Mauritanie des mesures qui permettent de protéger les femmes?
Alors il y a un peu de sensibilisation déjà, car c'est la première protection finalement pour éviter les violences, mais il n'y en a pas assez, parce que dans un pays où le niveau d'instruction des femmes est faible, où elles méconnaissent souvent leurs droits, cette information est vraiment cruciale, donc il en faudrait plus. Il existe, et ça c'est tout récent, une unité de prise en charge médicale qui a été mise sur pied l'année dernière par une ONG et qui est aujourd'hui soutenue par l'État à l'hôpital mère et enfant de Nouakchott pour prendre prendre en charge les filles, les femmes, voire les garçons victimes de violences sexuelles. Mais voilà, c'est une initiative toute récente. Et aujourd'hui, clairement, la réalité, c'est que les femmes ne sont pas assez protégées, que ça reste compliqué pour elles de témoigner, de porter plainte, d'obtenir justice, d'avoir accès aux soins et ensuite de pouvoir trouver un endroit où elles peuvent se réfugier, se reposer. Il existe quelques centres d'accueil pour les victimes, mais qui là sont exclusivement gérés par des ONG, pas par l'État. Seulement, ces centres ne sont pas en mesure d'héberger des personnes la nuit, sauf dans des cas exceptionnels, et ils ont peu de moyens pour apporter des soins. Enfin, il faut juste le dire, et ce qui est important pour protéger, il y a évidemment des lois, il faut des lois, il en existe plusieurs, mais celles qui existent ne sont pas suffisamment précises. Et ne peuvent pas aujourd'hui vraiment protéger les femmes parce qu'elles sont sujets à interprétation.
Alors justement, vous parlez des lois. Lamine, vous avez une autre question.
Bon, je voulais savoir si toutefois de nouvelles mesures plus adaptées pouvaient être envisagées par le gouvernement.
Et notamment de nouvelles lois. Marie-Pierre Olfaux, il y a un projet de loi, je crois, qui est sur la table.
Oui, alors mais seulement aujourd'hui, le problème, c'est que les autorités mauritaniennes vraiment n'ont pas, et on le voit dans leur réponse, ne montrent pas une ouverture pour changer les choses. Ce projet de loi, c'est un projet de loi important qui a été approuvé en mars 2016 sur les violences fondées sur le genre. Ce projet n'a pas été voté la première fois au Parlement. Il devrait repasser bientôt devant l'Assemblée. Donc Human Rights Watch compte sur ce nouveau vote et espère que des amendements seront apportés à ce projet parce qu'actuellement, ce projet est insuffisant sur plusieurs points. La définition du viol est trop restrictive, pas assez précise. Le projet de loi ne pénalise pas les autres formes d'agression sexuelle que le viol et il criminalise toujours explicitement les relations sexuelles consensuelles hors mariage, donc l'adultère. Donc avant de penser et d'imaginer et de demander de nouvelles lois, il faudrait déjà que celles qui sont encore dans les tiroirs soient modifiées pour qu'il y ait une réelle avancée des droits de la femme.
Vous êtes en Mauritanie, vous souhaitez justement réagir au sort des femmes dans votre pays. Appelez-nous, nous vous donnerons la parole vendredi dans la Libre Antenne. N'hésitez pas, faites-le, vous pouvez le faire anonymement, bien évidemment. 33 9 693 693 70. Merci beaucoup Marie-Pierre Olfaux. On souhaite une bonne journée à Lamine, qui nous appelait donc de Banjul, en Gambie. Il est 10h18 à Paris. On prend le temps tous les matins de vous répondre, de vous permettre de mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Bonjour Adriana Moïses.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne de RFI. L'élection présidentielle au Brésil. Le premier tour, c'est dans moins d'un mois, le 7 octobre. Ossana, qui nous appelle du Tchad, il est à Béboto, exactement, dans le sud du pays, a plusieurs questions à vous poser, Adriana. Bonjour, Ossana.
Bonjour, Anne, et merci à l'équipe dynamique d'Apache La Santé qui nous offre ce portrait de poser toutes nos questions.
Eh bien, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Juan, Brésil, le favori du premier tour de la présidentielle, Jair Bolsonaro, poignardé en campagne, est grièvement blessé. Alors j'aimerais savoir, dans quelle mesure cet incident va avoir un impact sur le scrutin?
Alors,
et comment peut-il faire?
Oui.
Et comment peut-il faire dans la cour? Comment peut-il faire pour rester dans la cour alors qu'il est hospitalisé?
Il est hospitalisé, il est gravement blessé, il doit encore subir une nouvelle opération. Rappelons, Adriana Moïses, les faits. Jeudi dernier, au cours d'un meeting, Jair Bolsonaro a été poignardé. Cette tentative d'assassinat a été rapidement et unanimement condamnée par la classe politique brésilienne. J'imagine évidemment que cette agression a un impact sur la campagne. Aura-t-elle des conséquences sur le scrutin?
Bonjour, Ossana, bien sûr que ça a eu un impact sur la campagne, mais on va voir que pour l'instant, cet impact est encore mesuré. Donc, Ossana, dans un premier temps, je dirais que pas mal des Brésiliens et même les adversaires de Bolsonaro ont cru que cet épisode allait faire les candidats de l'extrême droite monter en flèche, tout simplement, dans les sondages. Les deux fils du candidat, parce qu'il est entouré par deux fils qui sont aussi dans la politique et qui sont, eux, responsables de sa stratégie politique et de sa communication, ont même dit, juste après l'incident, que la victoire au premier tour était dorénavant assuré,
oui,
qu'il allait tout faire pour que Bolsonaro soit, on va dire, leur stratégie, vu comme une victime qui lui-même, Bolsonaro, de son lit d'hôpital, a dit qu'il n'avait jamais fait mal à personne. Mmh. Donc, ils ont cru effectivement que ça allait changer le regard sur les candidats et que ça allait attirer encore des sympathisants.
Mais on constate tout de même une petite progression dans les intentions de vote. Il est tout de même à 24% dans les intentions de vote. Actuellement, à cette heure-ci, bien évidemment, il est en tête tout de même.
Il est en tête tout de même, mais pas mal de politologues considèrent que ça peut se tasser aux alentours des 30%. Mmh. Cette progression, elle était prévue. On savait que après les débuts de la campagne à la télé, c'est très important au Brésil, il y a la publicité officielle de candidats, tous les jours ils sont à la télé, que ça, les choses pourraient changer. Et surtout d'une façon mauvaise pour Bolsonaro, parce qu'il n'avait que 8 secondes, pendant que les autres auraient plus, par exemple.
Depuis, il est en permanence à la télévision, caméras des différentes chaînes de télévision sont à l'hôpital,
dans sa
chambre même. Donc il a un temps de parole aujourd'hui qui est un peu plus important que les autres.
Voilà. Mais les deux sondages qui sont paru depuis lundi, montre dans un sondage de l'Institut Datafolha, il a progressé de 2 points, il est à 24%, et dans une autre, publiée hier soir, de IBOP, il a progressé de 4 points.
Ah oui.
Il était à 22%, maintenant il est à 26%.
Donc ça veut dire que cette agression, cette tentative d'assassinat, pour l'instant, profite aux candidats de l'extrême droite.
Profite aux candidats de l'extrême droite, passe autant comme ses enfants avaient imaginé. Il sait que c'est intéressant, c'est que l'Institut Datafolha a mesuré aussi les rejets, les taux de rejet. Et là encore, après l'incident, les taux de rejet de Bolsonaro a augmenté. De 39% à 43%.
En tout cas, rien n'est joué encore. Il reste 3 semaines. Osana, qui est toujours en ligne, nous demandait, bon, il est grièvement blessé, maintenant comment peut-il faire pour poursuivre sa campagne? Les médecins sont plutôt pessimistes. Visiblement, il ne ressortira pas de l'hôpital avant le premier tour.
Non, c'est sûr et certain qu'il ne ressortira pas de l'hôpital avant les premiers tours. Comme vous avez dit, il aura besoin de faire une deuxième opération. Son état est encore grave. Il ne peut pas subir cette opération tout de suite. Il est encore en soins intensifs, demi-intensifs. Et donc, ses enfants ont décidé qu'ils vont essayer de le remplacer dans l'enregistrement des vidéos. Ils vont faire la campagne sur les réseaux sociaux. Mais même Bolsonaro, qui pensait qu'il allait sortir une vidéo aujourd'hui au dément, aujourd'hui, on voit déjà sur la presse qu'il n'arrive pas. Apparemment, il est très aussi encore... ce qui est attendu.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous aider là.
C'est une émotion pour lui. Il s'est vu devant la mort.
Oui,
il est conscient. Il est conscient qu'il est presque mort. Et il n'est pas sorti de l'affaire. C'est ça l'histoire.
Et donc, ça a ému, évidemment.
Ça a ému.
Le peuple brésilien.
Oui.
Et du coup.
Mais pas autant.
Mais
hein.
pas autant qu'on pourrait le penser, effectivement. Et on a bien vu que dans un premier temps, la classe politique, ses opposants, n'osaient plus s'attaquer frontalement au candidat de l'extrême droite, puisque bon, voilà, il a frôlé la mort, il est à l'hôpital, donc effectivement, les partis ont dû revoir dans les jours qui ont suivi un tout petit peu leur communication, mais voilà, la bataille a repris.
Tout à fait.
Tout à fait.
Pendant deux jours, mais après, la bataille, elle est là.
A-t-on répondu à vos questions, Osana?
Oui, parfaitement satisfait.
Eh bien, tant mieux. Bonne journée à Beboto dans le sud du Tchad. Merci Adriana Moïses de la rédaction brésilienne de RFI. On a pris le temps, beaucoup de temps ce matin, mais voilà, c'est important. C'est bien qu'on vous raconte l'actualité, qu'on vous explique les grands sujets qui vous intéressent, puisque ce sont vos questions, les questions des auditeurs. On va s'intéresser à la commission électorale en Côte d'Ivoire. Le sujet passionne en ce moment la classe politique, l'opposition multiplie les réactions. Stéphanie Aglietti, qui est la correspondante de RFI en Côte d'Ivoire, est avec nous. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juan.
On vous a appelé car Moussa, qui nous appelle de Sierra Leone, il est à Kemena, dans la 3e plus grande ville du pays, a plusieurs questions à vous poser. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons.
Voilà, Juan, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé qu'il n'aurait pas la réforme de la CI avant les élections communales. Mm-hmm. Comment comprendre la réticence d'Alassane Ouattara?
Alors, Stéphanie Aglietti, la question mérite d'être posée, d'autant qu'au début du mois dernier, le président Ouattara avait annoncé un réexamen de la composition de la commission électorale. Mais il y a quelques jours, le président de la République a expliqué qu'il n'y aura pas de réforme dans l'immédiat. Comment comprendre justement cette réticence?
Eh bien, pour Alassane Ouattara, sa position a toujours été claire lorsqu'il a annoncé, donc le 6 août, vous l'avez dit, son adresse, cette réforme à venir de la commission électorale. Pour lui, cela ne concernait que la présidentielle de 2020. Pour lui, son discours ne souffre d'aucune interprétation. Mercredi, il a d'ailleurs assuré avoir expliqué sa position en privé à Henri Conan Bédier, le président du PDCI, 2 jours après ce discours. Pour la présidence, dans l'esprit du chef de l'État, il s'agit là d'une concession, d'une main tendue pour permettre une présidentielle apaisée, car la position du gouvernement n'a pas changé. Comme Alassane Ouattara le répète dans ce fameux discours, la composition de la commission électorale résulte, selon lui, d'un large consensus entre tous les acteurs politiques ivoiriens. Et donc, pour le chef de l'État, la commission électorale n'est en aucun cas illégitime, comme l'assurent ses contempteurs.
Oui, donc, il y aura bel et bien une réforme, mais pas pour les élections locales d'octobre, mais bien pour la présidentielle de 2020, donc pas de réticence selon la présidence. L'opposition, elle, a une autre vision des choses. Moussa, vous avez une autre question?
Oui, la deuxième question. Quelle a été la réaction de l'opposition face à cette annonce?
Stéphanie Aglietti.
Oui, et bien du côté de l'aile dure du FPI, ben justement, le FPI, qui est le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, donc on interprète le discours du président ivoirien différemment. Alors ses opposants estiment qu'en refusant un report des élections locales et municipales pour permettre une réforme préalable de la CEI, Alassane Ouattara revient sur sa parole donnée le 6 août. Le FPI accuse le président ivoirien en fait d'avoir peur d'aller se mesurer aux autres partis lors d'élections organisées par une instance électorale consensuelle. Hier, lors d'une conférence de presse, le président du FPI, Abdourahmane Sangaré, n'a pas exclu d'appeler ses militants à manifester pour faire plier le pouvoir.
Ouais, donc voilà pour la réaction du FPI. Le PDCI, lui, en revanche, n'a pas officiellement réagi.
Oui, et c'est un silence qui peut a priori surprendre, parce que le parti d'Henri Conan Bédier réclamait à corps et à cri une réforme préalable. Là, il semble s'interroger un peu sur la marche à suivre. Il faut dire que depuis qu'il a annoncé sa rupture avec le parti présidentiel le 8 août, les divisions au sein de l'ancien parti unique se sont accentuées entre ceux en faveur de ce divorce et ceux qui le contestent. Et depuis plusieurs jours, certains en interne appellent au boycott pur et simple des élections locales si la CEI n'est pas réformée. Mais il est difficile de savoir, de mesurer le poids de cette frange au sein du FPI.
À suivre donc. Du PDCI, évidemment. À suivre donc, on aura peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, d'en parler vendredi dans la Libre Antenne. Voilà un sujet qui pourrait susciter des réactions au standard. Donc n'hésitez pas, appelez-nous 33 9 693 693 70. Faut-il réformer la commission électorale indépendante avant les prochaines élections, ou peut-on attendre finalement 2020 pour la présidentielle? Merci beaucoup Stéphanie Aglietti, Moussa. Continuez à nous écouter en Sierra Leone. Merci à vous de votre fidélité. D'autres questions à la rédaction demain matin. On avait prévu notamment des questions sur le retour de Barack Obama sur la scène politique américaine. Herson, ne vous inquiétez pas, c'est promis, on vous rappelle demain et vous aurez les explications de nos experts. D'ici là, vous continuez à nous appeler puisque l'émission continue. Dans 10 minutes, on sera de retour et on parlera du bras de fer entre les États-Unis et la Cour pénale internationale. Les États-Unis qui menacent de sanctionner les juges de la CPI si jamais ils décident de poursuivre des citoyens américains. Alors comprenez-vous la réaction de l'administration Trump? Quel avenir finalement pour la Cour pénale internationale? 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.